Eh bien, bonjour frères et sœurs, joyeux sabbat à vous tous. Récemment, mon épouse et moi, nous avons eu l'occasion de visiter quelques frères et sœurs en Inde. Et nous avons vu la situation de certains de nos frères et sœurs dans ce pays, où les chrétiens, toutes tendances confondues, sont en petite minorité. Dans la ville de Moradabad, nous avons une congrégation, c'est le seul groupe qui peut se qualifier vraiment de congrégation. Et cela a commencé par un homme qui s'appelle Robinson Youssouf et son épouse et leur fils et maintenant sa femme et ses enfants également. Ils vivent à Moradabad dans une ville qui est très majoritairement musulman. Quand ils y sont établis au début, il n'y avait pas de musulmans dans leur coin. En fait, ils étaient tout seuls dans leur coin. Ils ont établi une école qui a maintenant plus de 300 élèves. Et ces 300 élèves, à part leur fils, sont tous des élèves musulmans. Et il y a des tensions dans le quartier. Ils nous ont expliqué qu'ils n'osent pas laisser sortir leurs enfants jouer dehors. Toujours une possibilité d'un problème. Quand nous y étions, c'était pendant la période du Ramadan, et on a dû faire très attention en nous introduisant dans le quartier de faire très attention avec le véhicule. Le chauffeur était hindou. S'il y avait eu le moindre contact entre le véhicule et quelqu'un dans la rue, eh bien, ça aurait pu mener à la violence, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il y a des tensions avec des musulmans qui sont 10% de la population environ. En Inde, environ 84% des gens sont hindous, 10% sont des musulmans, et les 6% restants rassemblent les chrétiens, des bouddhistes et d'autres religions orientales. Et ça veut dire que les chrétiens sont, il y a une, comme j'ai dit, une persécution contre eux. À Hyderabad, une autre ville où nous avons deux membres, deux sœurs, elles nous ont expliqué que récemment, pour la première fois depuis toute leur vie, ben, on leur a refusé la location d'un appartement parce que elles sont chrétiennes. Elles sont chrétiennes et donc on a refusé. Elles nous ont dit que certains des propriétaires étaient un peu diplomates en disant « Nous ne voulons louer qu'à des végétariens », ce qui veut dire des hindous, mais d'autres ont simplement dit « Non, vous êtes chrétienne, ben, on ne va pas vous louer notre appartement ». C'est la première fois. Il y a une montée de sectarisme et une montée de persécution contre les chrétiens. Et on a vu en visitant ces quelques membres, en nous assoyant dans leur salon pendant le sabbat, j'ai eu l'occasion de présenter des études bibliques, mais ça faisait réfléchir cette persécution qui est très réelle pour eux. Ça commence, comme nous allons le voir aujourd'hui, ça commence dans l'Occident également. Les gens peuvent être harcelés ou incommodés ou pire encore à cause de leurs convictions basées sur la Bible. Ça monte, mais on n'est pas arrivé encore au stade où ça en est en Inde. Et cela m'a fait réfléchir au sujet de la persécution, puisque c'est un sujet qui est très présent dans la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, et j'ai trouvé que ça serait utile pour nous de réfléchir un petit peu et de voir ce que la Bible dit à propos de la persécution, en particulier la persécution à venir, et comment nous pourrions y faire face si jamais cela nous arrive. Regardons pour commencer 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. C'est un passage, un verset qui nous explique que la persécution nous concerne tous. Parce que la Bible dit dans ce passage que nous allons tous y faire face jusqu'à un certain point. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. L'apôtre Paul dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Cela nous est probablement arrivé déjà à un certain degré dans le passé, mais même si ce n'est pas le cas encore, ça va nous arriver, puisque la Bible est catégorique. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Ça va nous arriver à un moment donné ou à un autre. Et la Bible prophétise qu'il y aura une intensification de cette persécution au fur et à mesure qu'on s'approche du temps de la fin. Ça va s'aggraver avec le temps. Et cela ne devrait pas nous surprendre, puisque la Bible explique aussi que ça a toujours été le cas. tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont être persécutés, mais tous ceux qui ont servi Dieu de par le passé, également, les prophètes, ont été persécutés. Ça, nous le lisons dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 52 pour commencer. Actes chapitre 7, verset 52. Nous sommes dans le discours, le sermon, la déclaration d'Étienne. Et il dit une chose frappante ici, et c'est frappant en particulier à la lumière de ce qui lui est arrivé par la suite. Commençons au verset 51. Il dit à ceux qui l'ont écouté, « Hommes aux coups raides, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Et nous voyons ici une raison, une motivation derrière la persécution contre les serviteurs de Dieu. C'est que l'être humain, naturellement, s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne veut pas se soumettre à Dieu. Et quand il est confronté ou quand il fait face à des gens qui veulent se soumettre à Dieu et à son Saint-Esprit, il y a automatiquement une opposition. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? La persécution venait même de son propre pays. C'était ses propres compatriotes, le compatriote qui était l'origine de cette persécution. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. Il a dit, tous les prophètes ont été persécutés parce qu'ils ont cherché à accomplir la volonté de Dieu. Ils étaient guidés par le Saint-Esprit et donc il y a eu opposition. Et Étienne a dit, et vous-même, vous faites la même chose que vos pères ont fait. Vous avez tué le Fils de Dieu. Vous êtes responsable de sa mort. Alors ce que nous tirons d'ici, il y a au moins deux choses que nous pouvons tirer de ces quelques versets. C'est tout d'abord l'origine de cette persécution, c'est une opposition automatique de l'être humain avec sa nature charnelle contre l'agissement du Saint-Esprit, contre l'agissement, les actions de Dieu. Et aussi, nous voyons que ça a toujours été le cas. Étienne dit, il n'y a pas eu un prophète qui n'a pas été persécuté par vos pères, parce que ils ont refusé l'action du Saint-Esprit. Ça a toujours été le cas pour les serviteurs de Dieu. Ce sera toujours le cas pour les serviteurs de Dieu. Essayons maintenant de définir exactement ce que cela veut dire, persécution. Ça veut dire quoi? Eh bien, le mot dans le grec persécuté, c'est dioko, avec un D, dioko. Et ça veut dire littéralement mettre en fuite. Mettre en fuite. C'est également traduit poursuivre. Et donc, implicitement, persécuter. Poursuivre, courir après, chercher après quelqu'un. C'est un peu comme l'expression qu'on a en français, quelqu'un vient nous chercher, il vient nous chercher des noises, il vient nous chercher pour nous créer des problèmes. Ça, c'est l'idée de la persécution, dioko. Poursuivre à la hâte, c'est une autre traduction possible. Opprimer ou harceler de manière systématique. Opprimer ou harceler de manière systématique. C'est pas une chose qui se fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qui est recherché, quelque chose qui est planifié, qui est réfléchi à l'avance. Selon le dictionnaire biblique Holman, la définition, c'est la persécution cherche à intimider, à faire taire, à punir, ou même à tuer des gens. La persécution cherche à intimider, à faire taire, à punir, ou même à tuer des gens. Cela veut dire que la persécution peut être un harcèlement de la part des membres de la famille, probablement quelque chose que nous avons expérimenté, l'intimidation au travail, quand le patron n'est pas d'accord avec le fait qu'on s'absente pour les jours saints, par exemple, ou à l'école, pareillement. Et ça peut aller jusqu'à la condamnation par les autorités civiles, condamnation en droit par les autorités civiles, et ça peut aller, dans le pire des cas, même jusqu'à être tué par des personnes qui s'opposent aux croyances paisibles de ce que prône la Bible. Parce que cela signifie harceler ou aller chercher quelqu'un pour chercher des noix, chercher des problèmes, c'est intéressant à noter que Jésus a même dit que Saul, qui est devenu l'apôtre Paul après, que Saul le persécutait, qu'il persécutait Dieu. Il poursuivait Dieu, il allait le chercher. Actes chapitre 9, tournons quelques pages. Actes chapitre 9, verset 4. Actes chapitre 9, verset 4. Mais lisons le verset 3 pour voir le contexte. Comme il, Saul, était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi est-ce que tu me poursuis? Pourquoi est-ce que tu me harcèles? C'est-il possible même qu'on harcèle Jésus-Christ, du Dieu? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il le mentionne une deuxième fois. « Tu es en train de me persécuter. Tu viens me chercher des noises. Tu me poursuis. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et c'était le début de la conversion de celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Dieu s'est servi de ce mot qui est traduit par persécution pour décrire ce que Saul faisait à son égard. Regardons, pour voir ce que la Bible dit à propos de la persécution, regardons aussi Jean chapitre 15. Une chose que Jésus a dit à propos de la persécution. Jean, chapitre 15, verset 20. L'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 20. Jésus a averti ses disciples à l'avance. Il a dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, et ils l'ont fait, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, et certains l'ont fait, peu, pas très nombreux, mais quelques-uns ont suivi, gardé sa parole, ils garderont aussi la vôtre. » Nous pouvons nous attendre à peu près au même résultat que Jésus-Christ. Lui qui a prêché pendant 3 ans et demi, et pour ainsi dire, une poignée de gens ont été appelés à la vérité, ont été convertis. Eh bien, ce sera la même chose de l'activité de l'Église de Dieu. Quelques personnes vont être converties et il y aura aussi une opposition et une persécution de la part de ceux qui résistent à l'activité du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont leurs raisons qui leur paraissent logiques, mais en fait, ils sont en train de résister au Saint-Esprit. Revenons aussi dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 29. Marc chapitre 10, verset 29. Il y a une, je pourrais le qualifier d'une drôle de promesse ici. Il y a une promesse de beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelque chose qui nous est moins agréable. Et ça fait partie de la même promesse. Marc chapitre 10, à partir du verset 29. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, avec des persécutions. » Si ce que nous devons quitter, ce qui nous est enlevé à cause de nos convictions, à cause du fait que nous suivons la voie de Dieu, cela nous sera rendu, et ça veut dire, ça parle de la fraternité que nous avons entre frères et sœurs dans l'Église de Dieu, nous nous appuyons les uns les autres, nous nous invitons dans nos maisons, nous partageons des repas, les membres de l'Église de Dieu deviennent comme des membres de notre famille, nous nous appelons frères et sœurs. Et c'est une promesse qui vient de la bouche de Jésus-Christ. Nous allons recevoir ça au centuple. Mais avec des persécutions. C'est cet aspect que nous pourrions considérer comme négatif, qui glissait au milieu de toutes ces choses positives. Vous allez recevoir des membres de la famille, frères et sœurs et pères et mères et terres et tout cela, avec des persécutions. Ça va venir. Cette opposition est certaine de venir. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça, c'est la réponse, la récompense ultime que nous cherchons. Ça, c'est la récompense ultime que nous cherchons. Alors, nous avons ces promesses que beaucoup de bonnes choses nous seront rendues au centuple, mais en même temps, il y aura des persécutions. Jésus avertit ses disciples que cela fait partie de la voie chrétienne. Nous allons devoir faire face à l'opposition. Et comme j'ai dit déjà, probablement ça s'est déjà présenté. Des membres de la famille qui nous ridiculisent, le patron qui est difficile, peut-être même les autorités qui peuvent intervenir. On connaît des cas de personnes qui ont été menacées de que leurs enfants leur soient enlevés parce qu'ils refusaient de les envoyer à l'école le jour du sabbat, et ainsi de suite. Faire face à cette opposition, à l'harcèlement qui peut venir, à l'intimidation, même à une punition à cause de la voie chrétienne, eh bien cela fait partie du fait d'être disciple de Jésus-Christ. Ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas. Et nous voyons ici que c'est lié, la persécution ici est liée à la récompense que Dieu nous offre. Et très souvent, nous allons le voir dans le Nouveau Testament, quand il est question de persécution, c'est jumelé avec la récompense que Dieu nous offre. Et nous verrons plusieurs passages qui vont mettre ces deux choses en parallèle. Il y a persécution, mais il y aura récompense. Et nous verrons que c'est une clé nécessaire pour faire face à la persécution. Alors, avec tout cela comme introduction, posons une question. À quoi pouvons-nous nous attendre à l'avenir en ce qui concerne la persécution? Basé sur les exemples bibliques que nous avons, ce qui s'est déjà passé, parce que nous savons, la Bible dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. S'il y a des exemples de persécution dans la Bible, nous pouvons donc nous attendre à ce qu'il y ait des choses semblables qui se passent dans l'avenir, n'est-ce pas? À quoi pouvons-nous nous attendre à l'avenir concernant la persécution, basé sur ce que nous avons déjà dans la Bible? Eh bien, prenons quelques exemples. Dans Actes chapitre 8, verset 1. Il est question de persécution ici, la persécution au moment où Étienne a été assassiné. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. La Bible ne mâche pas ces mots, c'était un meurtre, tout simplement. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, une chose qui pourrait arriver, ça s'est déjà produit, comme nous le voyons ici, c'est que quelques responsables, quelques leaders dans l'Église pourraient être pris à part, comme ce fut le cas d'Étienne, il était assassiné, et il y a eu une dispersion des membres de l'Église. Ils ont dû quitter la ville de Jérusalem et aller dans les endroits un peu plus sûrs. Donc c'est une chose à considérer. Il pourrait avoir une dispersion à un moment donné dans l'avenir. La nécessité de sortir de certains points chauds, les grandes villes peut-être, et d'aller quelque part de plus sûr. Ça s'est déjà produit pour les chrétiens au premier siècle. C'est une chose à envisager encore aujourd'hui. La nécessité de quitter un point chaud où la persécution est très intense afin de se rendre dans un lieu qui serait plus sûr. C'est une possibilité. Ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Est-ce que je serais prêt à faire ça? Comment est-ce que je m'y prendrais si jamais il fallait quitter chez moi pour aller dans un endroit pendant quelque temps, aller dans un endroit plus sûr. Ça s'est déjà produit pour les frères et sœurs. Ici, pas pour les apôtres. Nous verrons que parfois les apôtres ont été pris à part également, particulièrement. Mais ici, apparemment, Dieu les a protégés, a permis qu'ils restent sur place, probablement parce qu'ils avaient encore du travail à accomplir. Il y avait encore des choses à prêcher. Mais une chose que nous voyons, donc, c'est en cas de persécution, il pourrait avoir une dispersion, où les frères et sœurs seraient disposés, seraient obligés de quitter chez eux pour aller dans un endroit où ils seraient en plus de sécurité. Un autre exemple qui pourrait arriver dans une persécution se trouve dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, à partir du verset 49. Actes chapitre 13, verset 49. Voyons ce que nous pouvons tirer de ces quelques versets ici. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassaient de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Ce que nous avons ici, donc, c'est une autre cas de figure. Il ne s'agissait pas ici d'une foule déchaînée, de quelque chose qui est arrivé à l'improviste, mais plutôt une campagne prévue, raisonnée. Les Juifs ont excité les femmes et les hommes éminents de la ville, qui apparemment ont travaillé, non pas ouvertement, mais en coulisses. Ils ont monté les autorités contre Paul et Barnabas. Probablement, il s'agissait d'accusations devant les autorités, faisant paraître le christianisme, qui est tout à fait paisible dans la Bible, mais faisant paraître le christianisme comme une menace pour la société. Et donc, ils ont excité les juges, ils ont excité les autorités de la ville pour arrêter la prédication de la parole de Dieu. Est-ce que nous pourrions imaginer une chose semblable aujourd'hui? Eh bien, effectivement, des choses similaires se dessinent déjà à l'horizon. Nous avons des personnes éminentes, ceux qui sont des vedettes de cinéma ou les autorités de la presse ou autres, qui essaient de monter l'opinion publique et les autorités et la jurisprudence contre les enseignements de la Bible. Et on traîne déjà certains chrétiens devant les tribunaux, ceux qui croient en la Bible, ce que la Bible dit, par exemple, à propos du mariage, qui naît qu'entre un homme et une femme. Ils essaient d'anéantir les entreprises, les gagne-pains de certaines personnes qui croient en ce que dit la Bible, parce qu'ils refusent de faire cuire, préparer un gâteau qui célèbre un mode de vie qui est contraire à ce que la Bible enseigne. Et ils refusent de célébrer des événements homosexuels ou autres, et donc on les traîne en justice, et on essaie sciemment d'anéantir leur entreprise. On veut les faire punir financièrement au point où ils ne peuvent plus travailler. Ça s'est produit plusieurs fois aux États-Unis. Maintenant, la Cour suprême américaine est intervenue avec une voix de raison récemment, mais seulement par un seul vote sur 9. Un seul vote a déterminé que ces personnes qui refusaient de cuire un gâteau, ils ne vont pas faire avoir détruire leur entreprise maintenant. Mais ça, si un vote a déterminé cela, ça pourrait changer très très facilement. Il s'agit d'un vote sur 9. Et ce n'est pas uniquement aux États-Unis, des choses semblables se passent au Canada, des cas similaires se passent en Europe également, où les chrétiens, ceux qui croient à la Bible, le simple enseignement de la Bible, sont harcelés, sont poursuivis devant la justice, un peu comme ce qui a été le cas de Paul et Barnabas. Il y a eu cette campagne arrangée, préparée en coulisses pour les faire fuir, pour arrêter, interdire leur travail. Est-ce que cela pourrait se produire de nouveau? Ça se produit déjà dans les églises du monde, et on pourrait très facilement voir cela arriver dans l'Église de Dieu aussi, dans un avenir pas très lointain. C'est possible à tout moment. Pourrait être un événement isolé, inattendu, qui arrive, et cette persécution pourrait arriver. Regardons aussi ce que Jésus a dit, un troisième cas de figure dans la persécution, Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, à partir du verset 12. Luc chapitre 21, maintenant nous sommes dans le contexte du temps de la fin, ce qui va arriver au temps de la fin. Luc chapitre 21, verset 12. Mais avant tout cela, Jésus dit, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Alors probablement, on ne peut pas le dire avec 100% de certitude, mais probablement il s'agit ici des apôtres. C'était pas tous les membres dans la congrégation, mais les responsables, ceux qui étaient plus visibles, ceux que Jésus avait établi comme responsables dans l'Église, qui allaient être arrêtés, emprisonnés, traînés devant les rois et les autorités. Verset 13, « Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront pas leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Alors, comme j'ai dit, il s'agit probablement ici des leaders reconnus dans l'Église. Ça veut dire que si les choses se passent de nouveau comme c'était déjà le cas dans le passé, nous verrons probablement des dirigeants dans l'Église qui deviendront des cibles particulières pour ceux qui organisent cette persécution. Nous pourrons très facilement imaginer, comme Jésus l'a annoncé ici, que des responsables dans l'Église soient arrêtés, poursuivis devant la justice. Ils seront peut-être cibles de violences collectives. Et nous voyons encore une fois une ébauche de cela dans certains pays d'Occident, où les leaders politiques, d'un côté ou de l'autre, encouragent un harcèlement organisé contre ceux avec qui ils ne sont pas d'accord. On a vu ça récemment aux États-Unis, où des politiciens ont encouragé ceux qui les suivent de harceler leurs opposants politiques dans des restaurants, d'empêcher qu'ils puissent manger tranquillement, d'harceler leurs enfants à l'école. C'est choquant de voir un comportement pareil de personnes qui devraient montrer l'exemple, mais qui ne le font pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cela soit le cas contre les responsables dans l'Église de Dieu? Absolument, c'est pas difficile à imaginer. Et là, nous devrions nous poser la question, quelle serait notre réaction? Si on voyait un responsable dans l'Église arrêté, traité de manière honteuse, accusé de toutes sortes de choses en justice, dénigré dans la presse, quelle serait notre réaction? Comment est-ce qu'on réagirait face à cela? Est-ce qu'on se retirerait, on arrêterait d'être associé à l'Église de Dieu, ou est-ce qu'on aurait le courage d'assumer cela et de persévérer dans la voie que nous connaissons? C'est une question que nous devrions nous poser. En fait, dans toutes ces questions de persécution, il est bon de réfléchir à l'avance, plutôt que simplement d'essayer de réagir à l'improviste si quelque chose arrivait d'improviste. Il faut réfléchir à l'avance afin de pouvoir nous décider en nous-mêmes, voilà ce que je vais faire. Si jamais cela arrive, je vais maintenir ma stabilité, je ne vais pas abandonner la voie, je vais rester ferme dans mes convictions. Et c'est pas une opposition, une persécution de la part de quelqu'un d'autre qui va me faire changer d'avis ou changer de comportement. C'est pour cela qu'il est bon de réfléchir à l'avance. Quelle serait notre réaction si l'Église était persécutée, si certains responsables dans l'Église étaient pris à part? Quelle serait notre réaction? Eh bien, deuxième question, on a déjà posé la question, ça pourrait ressembler à quoi dans l'avenir une persécution, quand cela va arriver? Voilà quelques exemples tirés du Nouveau Testament. Est-ce que la Bible nous encourage à réagir d'une certaine manière quand nous sommes persécutés? Eh bien, je vais vous proposer quelques passages qui soulignent ce que la Bible dit, comment devrait être notre réaction quand nous serons persécutés. Tout d'abord, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, versets 35 et 36. Romains chapitre 8, versets 35 et 36. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Première chose qui est mentionnée. Tribulation, l'angoisse, la persécution. Tribulation, persécution, c'est très similaire. Ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ah, c'est la persécution grave qui mène jusqu'à la mort, ce que nous voyons là. Mais l'apôtre Paul pose la question, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que la persécution nous séparera de l'amour de Christ? Et la réponse devrait être non. Donc une première chose, une première réaction que nous devrions avoir, si jamais la persécution, quand cela nous arrive, nous ne devons pas nous mettre à douter de l'amour de Dieu. Et c'est facile à l'être humain, quand il souffre, de se demander, ben, où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il me laisse là au milieu de la souffrance? Et c'est là où nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. En particulier quand nous souffrons. Parce que c'est là où c'est le plus facile d'avoir ces doutes. Ce n'est pas facile à l'être humain. Nous avons tous expérimenté. Même quand nous serons confrontés à la persécution, nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu. Dieu nous aime toujours. Il a permis à ses serviteurs, les prophètes, de passer par la persécution. Il le permettra jusqu'à un certain point pour nous aussi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu cesse d'être maître de la situation, de mettre des limites à ce qu'il va permettre. Son peuple a toujours été disposé à faire face à l'opposition et de lui obéir afin d'accomplir sa volonté. Cela a toujours fait partie de son plan pour ses serviteurs. Cela reste le cas aujourd'hui. Cela restera le cas encore dans l'avenir. Alors, encore une fois, frères et sœurs, il est très important pour nous d'y penser à l'avance et de nous déterminer, de nous décider à l'avance quand la persécution va arriver. Je ne vais pas douter de l'amour de Dieu, puisque tout cela est écrit à l'avance. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nous ne devons pas permettre à la persécution de nous séparer de l'amour de Christ ou de nous faire douter de son amour envers nous. Et, frères et sœurs, ce sera un défi. C'est toujours un défi quand nous souffrons dans une épreuve que nous ne comprenons pas. Pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Nous n'avons pas toujours de réponse maintenant, mais nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu dans ces cas-là. Autre chose que la Bible indique pour nous comme réaction quand nous sommes confrontés à la persécution. 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. Verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. L'exemple de l'apôtre Paul. Jusqu'à cette heure, dit Paul, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, persécution, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul était quelqu'un qui a bien connu la persécution, il le subissait souvent. Et quelle était sa réaction? Eh bien, il a dit, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. C'est l'exemple chrétien. En d'autres termes, face à la persécution, nous devons présenter l'autre joue, comme Jésus l'a dit. Nous devons endurer, persévérer. Nous devons donner un bon exemple chrétien face à tout ce qui pourrait nous arriver. Et ça sera un défi, ça ne sera pas facile. C'était l'exemple de Paul, c'était l'exemple des autres apôtres. Et c'est au moment où nous sommes persécutés, malmenés, que notre exemple aura le plus d'impact sur d'autres personnes. Parce que chaque être humain comprend que quand on est maltraité, c'est très difficile de répondre de manière douce, de présenter l'autre joue. C'est pas humain. C'est vraiment là où on voit la puissance et l'intervention de Dieu. Notre témoignage pourra être le plus puissant dans des moments de persécution. Et notre Dieu pourra se servir de ces exemples-là pour attirer l'attention des gens, pour souligner sa puissance et sa bonté à lui. Lorsque nous serons persécutés, frères et sœurs, nous aurons l'occasion de donner ce qui sera probablement l'exemple le plus remarquable de toute notre vie. Parce que c'est dans ces moments-là où c'est difficile, où c'est la puissance de Dieu qui se manifestera. Ça ne sera plus de l'humain, ça sera vraiment du divin. C'est pour cela que nous pouvons lire dans Actes chapitre 5, regardons Actes chapitre 5, comment les apôtres ont été traités. Parfois ils étaient protégés, parfois ils étaient un cible particulier de la persécution. Actes chapitre 5, lisons un petit peu, c'est ce que Gamaliel disait. Il expliquait au Sanhédrin, « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, mais ils ont quand même fait battre de verges. Et ont appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Mais ça, c'est pas normal à l'être humain non plus. Certaines traductions dans la Bible, surtout en anglais, au lieu d'outrage, d'avoir subi la honte. Comment est-ce qu'on pourrait se réjouir de souffrir des outrages, d'être couvert de honte devant les autorités, devant les gens de son pays? Comme j'ai dit, ce n'est pas humain de faire cela. Comment est-ce qu'ils ont pu le faire? Sans doute, c'est parce qu'ils ont compris que leur exemple avait été très puissant, a eu un impact très puissant à ce moment-là. Comment est-ce qu'on pourrait se réjouir d'être devenu un objet de honte? Parce que c'est là où leur conviction intime est devenue vraiment visible. Nous devons faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles, et demander à Dieu de nous aider à rester stable, de rester doux, et de présenter l'autre joue. Faire face à la persécution est en quelque sorte un signe de confiance de la part de Dieu. Si Dieu nous permet d'affronter une telle situation, c'est qu'il a confiance que nous pouvons bien nous conduire dans ce cas-là. Nous n'allons pas perdre la tête, nous n'allons pas répondre avec le mal au mal qu'on nous fait. Si Dieu nous permet de passer dans une situation difficile comme cela, c'est un signe de confiance de sa part, que nous sommes en mesure de bien nous comporter et de montrer un bon exemple. Et c'est là où notre exemple pourra avoir le plus d'impact. C'est dans des moments de persécution comme cela. Autre chose que Jésus a dit concernant comment nous devons faire face à la persécution quand cela nous arrive, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 10. Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est là que j'ai tiré le titre de cette étude. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Comme j'ai déjà dit, souvent l'idée de la persécution est mise ensemble avec la récompense que Dieu réserve pour nous. Troisième chose à faire donc face à la persécution, nous devons nous concentrer sur le lien entre le fait d'affronter la persécution et la récompense que Dieu nous réserve. Persécution, récompense. Persécution, récompense. Quand nous sommes persécutés, nous devons fixer nos yeux sur ce que Dieu nous promet pour l'avenir. Quand nous restons fidèles face à la persécution, notre récompense que Dieu nous réserve au ciel, cette récompense grandit, devient plus importante. On dit parfois, les athlètes en anglais disent « no pain, no gain ». Sans douleur, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de progrès. Ça rime en anglais, c'est pour ça qu'on le dit. Et c'est vrai pour les athlètes, ils doivent souffrir dans l'entraînement afin de pouvoir devenir plus fort ou plus rapide ou autre chose, de s'améliorer. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le christianisme, la croissance chrétienne. Il y a une application spirituelle. Nous devons souffrir parfois pour fortifier, tremper notre caractère. Les douleurs que nous expérimentons en honorant Dieu dans cette vie apportent une grande récompense, incomparable, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Paul dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Nous voulons garder nos yeux sur ce qui est éternel. Paul parle de nos légères afflictions du moment. Nos afflictions ne paraissent pas toujours légères dans cette vie. Parfois, bien au contraire. Ça peut paraître très lourd, les afflictions que nous avons. Mais dans le contexte de l'éternité, dans ce contexte-là, de ce point de vue-là, nos afflictions du moment sont légères et incomparables à ce que Dieu nous réserve dans l'avenir. Et nous devons garder nos yeux fixés là-dessus, quand nous souffrons dans une persécution. Donc, troisième réaction que la Bible nous encourage à avoir, c'est de nous concentrer sur le lien entre le fait d'affronter la persécution, subir la persécution, et la récompense que Dieu nous réserve pour l'avenir. Ça peut nous aider à persévérer dans ces moments difficiles. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, nous avons déjà lu le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux », faisant le lien entre ces deux choses, mais poursuivons maintenant au verset 11. « Heureux ceux qui seront persécutés, heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Quand nous passons par la persécution, eh bien, nous suivons les pas de ceux qui nous ont précédés comme serviteurs de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Quand nous souffrons parce que nous sommes fidèles à Dieu, c'est une gloire. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ça sera un défi de le faire. La seule façon de faire cela, c'est de garder nos yeux fixés sur le lien entre la persécution et la gloire à venir, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nos frères et sœurs en Inde sont confrontés à une certaine persécution déjà. Et ils savent que cela pourrait s'aggraver à tout moment. Ils ne savent pas quand ça pourrait éclater et devenir bien plus grave. Il est important pour nous, frères et sœurs, de nous préparer mentalement, émotionnellement, et surtout spirituellement, à la persécution à laquelle nous ferons face. Ça va venir, la Bible le dit. Que ce soit peu intense, que ce soit très intense, avec l'aide de Dieu, nous pourrons surmonter ces épreuves et montrer peut-être l'exemple le plus remarquable que nous aurons témoigné pendant toute notre vie. Car heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.